parlait à l'instant, on voyait ces images de Vladimir Poutine avec Emmanuel Macron. On va revenir sur ces images de Vladimir Poutine aujourd'hui, qui a célébré le jour de la victoire à Moscou. Chaque 9 mai, la Russie commémore la capitulation de l'Allemagne nazie lors de la Seconde Guerre mondiale. Vous le voyez là, il a supervisé le défilé militaire sur la Place Rouge. Plus de 9000 militaires, selon les médias russes, qui ont défilé, des véhicules blindés, des lanceurs de missiles, des avions de combat. Ils étaient présents sur la Place Rouge. On va tout de suite aller retrouver notre correspondant Paul Gogo sur place, qui a suivi cette journée de commémoration. Qu'on se rende bien compte, Paul, sur place en Russie, c'est une fête nationale, c'est quasi comme notre 14 juillet à nous.
Oui, exactement, parce que dans les faits, c'est une journée qui est ultra politisée, mais en fait, c'est avant tout une journée qui touche les Russes en plein cœur, parce que tous les Russes, tous les Soviétiques ont au moins un proche qui est mort pendant cette Seconde Guerre mondiale, qu'on appelle la Grande Guerre patriotique en Russie. Et donc, que vous soyez d'opposition pour Navalny ou pour Vladimir Poutine, quelque part, cette journée résonne de la même façon pour vous quand vous êtes russe. Et donc, on voit sur les réseaux sociaux beaucoup de messages avec des mots qui sont quelque part les mêmes mots, les mêmes expressions que celles que Vladimir Poutine peut utiliser aujourd'hui. Donc c'est une espèce de communion nationale, et c'est d'ailleurs ce qui explique le fait que Vladimir Poutine tente de s'en servir à des fins politiques, parce qu'il sait que s'il arrive à manipuler, à jouer sur cette émotion, sur cette douleur, eh bien il peut toucher l'ensemble des Russes, et peut-être pas seulement les Russes qu'il soutienne.
C'était un 9 mai plus modeste, un peu au rabais aujourd'hui. Quel est votre regard à vous de correspondant sur ce 9 mai édition 2024?
Oui, effectivement, j'ai aussi eu cette sensation. C'est pas la première fois que je passe le 9 mai sur la Place Rouge à proximité de Vladimir Poutine. Et c'est certainement la première fois. Déjà, c'est la première fois qu'on a de la neige pendant ce défilé, ce qui, soit dit en passant, était assez exceptionnel. Et puis, c'était assez triste, parce qu'on comprend que, alors, il y a deux hypothèses. Peut-être que Vladimir Poutine est tellement sûr de lui qu'il ne prend plus la peine d'organiser un défilé extraordinaire. Peut-être aussi que Vladimir Poutine est conscient que tant qu'il n'y a pas de grande victoire à célébrer, ça reste assez compliqué de faire quelque part un grand spectacle dans lequel on ferait un lien entre la victoire pendant la Grande Guerre patriotique et cette victoire en Ukraine. Alors, bon, Vladimir Poutine utilise ce défilé pour essayer de créer ce lien entre les deux guerres. D'ailleurs, il y avait encore aujourd'hui des soldats qui participent à la guerre en Ukraine. Il y avait même des blessés dans le public. Mais le fait est qu'il n'y avait aucun tank sur la Place Rouge et presque pas d'aviation. Qu'il n'y avait personne en ville, pour pas beaucoup de monde du moins en ville, pour observer ces tanks. Et puis surtout, ce défilé, normalement, est suivi d'un défilé civil dans l'après-midi. Et ça fait 2 ans que ce défilé civil il est annulé. Alors officiellement, c'est pour des questions de sécurité. Mais dans les faits, on se demande si ce n'est pas par crainte que les gens qui défilent avec des photos des soldats morts pendant la Seconde Guerre mondiale ne décident pas de venir dans la rue avec des photos de proches morts durant cette guerre en Ukraine, ce qui donnerait alors un effet de masse, et c'est ce que craint le Kremlin au quotidien.
Je crois qu'Anne-Elisabeth Moutet a une dernière question à vous poser sur le plateau, Paul.
Le fameux défilé civil qui est le régiment, ce qu'on appelle le régiment immortel, et qui en réalité, après avoir été des manifestations ponctuelles et spontanées de la part des gens, est organisé par Poutine pour des raisons bien précises depuis 2011. Est-ce qu'on peut peut-être développer la façon dont ça a été utilisé et les honneurs qu'il voulait par exemple montrer à des chefs d'État étrangers en les faisant défiler avec des membres de leur famille qui étaient morts pendant la guerre de 39-45 et pourquoi il veut l'abandonner maintenant ?
Oui, bah exactement. Alors, il faut savoir que ce défilé, c'est quelque chose de très impressionnant. À l'époque où il avait encore lieu, c'était à peu près 1 million de personnes. Hein, faut s'imaginer ça sur l'avenue Tverskaya, dans le centre de Moscou. Et le premier de ces Russes à défiler, c'était Vladimir Poutine. Donc, il y avait déjà tout un symbole, Vladimir Poutine qui défilait en première ligne, au premier rang. Et donc, ça créait des images impressionnantes, filmées par hélicoptère, sur lesquelles on voyait le président accompagné d'1 million de Russes. Donc, on peut pas avoir meilleure image quand on est président. L'objectif pour Vladimir Poutine, c'est vraiment de jouer sur cette émotion, c'est vraiment d'essayer de créer un lien sur ce qui se passe aujourd'hui avec ce qui s'est passé à l'époque. Alors, vous venez de le préciser, ça existait avant, cette ferveur et cette récupération politique existait bien avant. Je préciserai que moi, il y a quelques années, j'ai fait un reportage et Jean-Luc Mélenchon était venu participer à ce défilé. J'avais eu l'occasion de lui poser la question, de lui dire, mais vous savez que Vladimir Poutine est 200 mètres devant nous dans le défilé, vous comprenez qu'il y a une récupération politique. Bon, lui, ça ne l'avait pas frappé, ça ne l'avait pas marqué, parce que c'est là que la chose fonctionne, c'est-à-dire qu'il y a une douleur, une mémoire, une volonté de même de partager cette mémoire avec ses enfants, avec sa famille, qui est bien réelle chez tous les Russes, et pas seulement les Russes d'opposition. Et donc, vous avez envie de descendre dans la rue, c'est une initiative que les gens apprécient. Sauf qu'ensuite, eh bien, tout ça est utilisé à des fins politiques. Ça permet d'excuser et d'expliquer plein de choses, et notamment, de nos jours, la guerre en Ukraine.
Merci beaucoup pour toutes ces précisions, Paul Gogo. Je disais sur le plateau, on est notamment avec Denis Strelkov, journaliste à la rédaction russe de RFI. Vous avez quitté la Russie il y a 7 ans. Vous viviez dans quelle partie de la Russie ?
Je vivais un peu partout, mais je peux dire que j'ai passé un grand moment de ma vie à Moscou et à Samara, donc des villes qui sont tout à fait, à part une grande ville, la capitale, et puis donc une ville qui est relativement petite, juste 1 million d'habitants.
Et dans les deux villes, cet événement du 9 mai, ces défilés-là, ça faisait partie des rendez-vous annuels que vous avez connus depuis tout petit.
Oui, effectivement. Je dirais même que dans des grandes villes comme Moscou, oui, certes, c'est un événement qui est suivi par tout le monde, mais tout le monde ne va pas se rendre sur la place rouge. Mais dès que la ville devient un peu plus petite, c'est 1 million d'habitants, mais puis dans des villes de 200, 5 000 d'habitants, il y a à peu près tout le monde qui est obligé de sortir pour, effectivement, parce que le 9 mai, c'était, il y a encore quelques années plutôt, la commémoration des morts. Et la mort, donc, non, le souvenir de ces morts de la grande guerre patriotique, c'est comme ça qu'on appelle en Russie, est un sentiment qui est extrêmement fort, qui est enseigné à tous les enfants, même à l'école. Donc oui, effectivement, c'est à la fois la fête nationale, mais il y a encore quelques années, on n'a pas senti cette récupération politique qui est maintenant utilisée par Vladimir Poutine.
Et que le fait que le défilé civil soit annulé cette année, comment vous l'interprétez ? Est-ce qu'il craint pour des raisons de sécurité ? Est-ce qu'il craint, comme l'expliquait Paul, qu'il y ait des manifestants, que ça ne dégénère en manifestation anti-Poutine, anti-guerre ?
Moi, je dirais que je suis pas tout à fait d'accord avec ce qui venait de dire Paul Gogo. Je pense que quand on parle de cette manifestation contre Poutine, il a un peu réprimé toute l'opposition à lui. Il y a aussi des maires, des soldats qui sont morts en Ukraine, qui ont essayé de s'organiser à l'époque. Maintenant, ils n'ont pas réussi. Je pense que c'est plutôt par crainte d'un attentat qui est bien présent, qui est bien réel, parce qu'il faut imaginer que à Moscou, c'est des millions de personnes qui vont sortir dans les rues, ben, au moins des centaines, des milliers. C'est très difficile de les contrôler, même si c'est sûr qu'il y a une surveillance vidéo. Mais c'est quasiment impossible de s'assurer qu'il n'y a pas de mauvaise image à l'étranger même de ce défilé. Et quand je parle de l'étranger, je parle de la Biélorussie, je parle de la Chine. Bon, à l'Occident, c'est sûr qu'ils ont un point de vue tout à fait différent de ce qu'ils ont les Russes sur cet événement.
Général Balistrand dit dans un contexte particulier aussi pour les Russes, où les Russes eux-mêmes ne sont pas épargnés, particulièrement ceux qui vivent dans les régions frontalières de l'Ukraine. Il y a encore deux femmes qui ont été tuées, un troisième blessé aujourd'hui par des attaques ukrainiennes dans deux villages différents à la frontière ukrainienne.
Oui, alors il faut effectivement rappeler que la guerre, donc, ça fait déjà maintenant plus de 2 ans qu'elle a lieu, qu'il y a eu, 105, alors selon les services français, 150 000 soldats russes tués, ce qui est colossal. Donc si vous rajoutez à cela ce qu'on appelle les pertes, hein, les soldats blessés, prisonniers, donc on est aux alentours de 450 000 soldats qui ont été touchés dans leur chair. Donc effectivement, on aurait pu, s'il y avait eu le défilé des immortels, avoir des mères de famille ou des mères ou des femmes avec la photo non pas du grand-père tué pendant la Seconde Guerre mondiale,
mais de leur enfant.
De leur enfant. Voilà. Donc contexte extrêmement compliqué. Pareil, il n'y a eu qu'un char qui a défilé. Alors symbolique, un char. T-34, le char T-34, c'est le char de la Seconde Guerre mondiale. Avec un point aussi très particulier, c'est que le T-34 était construit à Kharkov. Aujourd'hui, Kharkiv. Bon. Et, en même temps, bon, il faut savoir.
Kharkiv, en Ukraine.
En Ukraine. Que les Russes ont déjà perdu, plus de 3000 chars. Ce qui est colossal. Voilà. Donc, on est vraiment dans un contexte, extrêmement, difficile. Même si, il faut quand même souligner que actuellement, c'est plutôt la Russie qui a repris l'initiative sur la ligne de front. Mais c'est vrai, vous l'avez souligné, il y a des frappes régulières, alors qui font peu de victimes du côté russe, il faut le souligner. Par contre, beaucoup d'infrastructures pétrolières russes sont touchées par les drones ukrainiens parce qu'ils ont compris que en détruisant, en fragilisant les capacités de production d'hydrocarbures, bah, ils touchaient au portefeuille du Kremlin et ça, c'est pas négligeable.
Alors peut-être qu'on peut écouter Vladimir Poutine qui a tenu un discours de combien de minutes d'ailleurs ?
50 minutes.
50 minutes de discours pour le chef du Kremlin, on écoute.
Chers amis, la Russie traverse actuellement une période difficile et cruciale. Le destin de la patrie, son avenir, dépendent de chacun d'entre nous. Aujourd'hui, en ce jour de la victoire, nous en prenons conscience de manière encore plus claire et nous nous tournons invariablement vers la génération des vainqueurs courageux, nobles et sages.
Il a fait porter...
Ulysse Gosset, Vladimir Poutine, qui donc préside cette troisième édition depuis le début de la guerre. Comment vous l'avez trouvé, vous ?
Tout à l'heure, on nous a dit qu'il avait neigé sur la place Rouge et j'ajoute qu'il avait fait très froid. Il n'a jamais fait plus froid que depuis 1945. Alors si je vous en parle, c'est pas pour faire la chronique météo, mais c'est que le discours de Poutine, qui a duré 15 minutes, n'a pas été consacré à la guerre en Ukraine, qu'il a en fait visiblement voulu mettre de côté. Mais il a voulu vraiment faire le parallèle avec la grande guerre patriotique dont on vient de parler. C'est-à-dire c'est le combat de la Russie contre les nazis. Et il veut faire le parallèle entre... non pas seulement l'Allemagne nazie, mais l'Europe nazie qui soutient l'Ukraine et l'Ukraine nazie, Zelensky, etc. Les néo-nazis d'aujourd'hui...
Sa rhétorique n'a pas changé.
Oui, mais comme si en mettant de côté la guerre, parce qu'il a simplement parlé une seule fois de l'opération spéciale, il n'a pas employé le mot guerre. L'année dernière, il avait parlé d'une guerre pour la survie de la Russie qui est menacée de disparition, etc. Aujourd'hui, comme s'il voulait dire aux Russes, on est dans le combat traditionnel contre le nazisme, mais on n'est pas en guerre. Il a voulu afficher une forme de normalité, entre guillemets, malgré la réalité de la guerre qui, évidemment, fait des ravages dans la société russe à cause des victimes, à cause de l'économie qui va mal. On annonce une croissance de 1% pour l'année prochaine en Russie, alors qu'on était à 5%. Donc, vous voyez, c'est l'impression que j'ai eue, et on parlait de Kharkov-Kharkiv tout à l'heure. Kharkiv, aujourd'hui, ukrainienne, c'est une ville qui est menacée directement par une offensive russe. Et quand Poutine en parle, il rappelle que c'est grâce à l'Union soviétique qu'on a pu libérer Kharkov des nazis. Vous voyez le parallèle ? Donc c'est intéressant, on s'interroge pour savoir pourquoi il n'a pas été plus virulent sur la guerre aujourd'hui, mais je rappelle quand même qu'au début de son discours, il a dit à tout le monde, et aux Occidentaux et au soutien de l'Ukraine, nos forces stratégiques nucléaires sont en alerte.
On l'écoute justement, on l'a, cette partie du discours.
La Russie fera tout pour éviter un conflit global, mais tout en même temps ne laissera personne l'intimider. Nos forces stratégiques sont toujours en alerte. L'Occident aimerait que les leçons de la Seconde Guerre mondiale soient oubliées, mais nous nous souvenons que le destin de l'humanité a été scellé lors de grands combats à Moscou, Leningrad, Rzhev, Stalingrad, Kharkiv.
Mais j'allais dire, Ulysse, ce n'est qu'une unième menace nucléaire brandie contre l'Occident.
Oui, mais ce qui est un peu inquiétant, c'est qu'il ne cesse de répéter cette menace comme s'il était dans son propre délire paranoïaque. Et le risque, c'est qu'on s'habitue. C'est-à-dire qu'en fait, on n'y prenne pas garde et que si un jour l'Ukraine venait à infliger de sérieuses défaites à la Russie, que ferait Vladimir Poutine ? Alors, personne ne croit au fait qu'il pourrait utiliser l'arme nucléaire parce qu'il sait très bien que la riposte serait foudroyante et qu'il perdrait tout, y compris peut-être la vie.
Donc il fait peur à personne quand il dit ce genre de choses ?
Mais oui, mais enfin, je pense qu'il faut que ça reste à l'esprit, c'est-à-dire que la Russie est une puissance nucléaire et que, au fond, la guerre aujourd'hui, c'est une guerre terrible, hein, qui fait des milliers de morts, des centaines de milliers de morts, mais ça reste une guerre canalisée, comme le souhaitent d'ailleurs les Américains. Qu'a Poutine en tête ? Lui qui est au pouvoir depuis si longtemps, hein, ça fait depuis... près d'un quart de siècle, est-ce qu'un jour il ne serait pas tenté, est-ce qu'il n'y aurait pas un acte, si vous voulez, une sorte de décision terrifiante qui le conduirait à appuyer sur le bouton ?
Son seul garde-fou, c'est lui-même.
Tout le monde pense que ce n'est que du chantage, mais à force de le redire, il ne faudrait pas qu'on s'y habitue.
Quel bouton ? Parce que le nucléaire stratégique, apocalyptique,
personne l'envisage. Mais est-ce que en nucléaire tactique de terrain de frappe limitée, il y a une capacité opérationnelle et une volonté politique?
C'est bien ça le problème, en fait.
Et ça ne dépend que de sa décision.
Et des Chinois.
Alors attendez, allez-y, général.
Donc, sur le pour répondre à ce que dit Christophe, le nucléaire tactique, c'est quoi? Ça serait, en fait, si par exemple en Ukraine, la situation russe était extrêmement fragilisée, une éventuelle frappe nucléaire tactique sur le champ de bataille, avec le fait, en se disant, l'Occident ne répliquera pas. Bon, voilà. La seule chose, c'est que on surveille de très près, c'est-à-dire que tout ce qui touche au nucléaire, quand je dis on, c'est les trois puissances occidentales dotées. C'est-à-dire les États-Unis, le Royaume-Uni et la France. C'est un club très fermé. Et on regarde exactement ce qui se passe. C'est-à-dire que, par exemple, là, il y a des exercices, il a parlé du nucléaire non stratégique. Bon, ce qui serait un signal extrêmement inquiétant.
À la frontière de l'Ukraine.
Voilà. Oui. Et si, par exemple, les missiles étaient équipés des charges nucléaires, là.
Et là, ils ne le sont pas.
Ils ne le sont pas. Mais donc, on surveille de très, très près. Et c'est la raison aussi pour laquelle il est indispensable de garder des canaux de communication avec Moscou pour faire passer des messages. Et c'est la raison pour laquelle également, jusqu'à présent, par exemple, chaque fois qu'il y a eu des tirs d'essais de missiles balistiques, les Russes ont appliqué les procédures habituelles pour prévenir, justement, pour qu'il n'y ait pas un engrenage qui... Mais c'est vrai, Ulysse a raison, il faut rester extrêmement vigilant.
Vous souhaitiez ajouter un mot, Anne?
Oui, plusieurs choses. La première, c'est qu'on sait que si la Russie a encore un peu de croissance, 1% c'est déjà quelque chose, c'est parce que la Chine l'aide, à beaucoup de points de vue, en achetant le pétrole et le gaz, évidemment, en fournissant notamment des pièces et des pièces électroniques pour pouvoir, pour pouvoir fonctionner dans les armes, et que l'une des conditions de ça, puisque Xi Jinping s'est engagé d'une manière que d'autres gens au comité central du Parti communiste chinois trouvent aventureux à soutenir la Russie, c'est pour l'une des conditions, c'est que la Russie n'utilise pas le nucléaire, sinon les Chinois sortent totalement de ça. Et le tactique, on peut tout de même se poser la question de la logique qui consisterait à dire nous sommes en train de libérer des villes qui sont russes, qui devraient être russes, où les gens parlent russe, nous sommes les Russes libérateurs, mais on va tout de même leur envoyer une bombe tactique sur la figure. Ça serait un petit peu contradictoire.
Il faut en avoir peur, vous qui connaissez bien, vous le russe, qui connaissez bien la Russie et avez étudié longuement le comportement de Vladimir Poutine, il faut avoir peur de ce genre de menace.
Je pense que le véritable problème, c'est qu'on ne sait pas du tout dans quelles conditions que Poutine, lui, il est capable d'utiliser ou non cette arme nucléaire. Oui, certes, on parlait de la Chine, mais il faut aussi bien se rendre compte que Vladimir Poutine, lui, il rentre probablement dans son dernier mandat et il va avoir envie effectivement de se faire remarquer sur le terrain, y compris sur le terrain de guerre en Ukraine. On sait selon différentes sources qu'il y a de plus en plus de militaires qui sont rassemblés effectivement autour de cette ville de Kharkiv dont on vient de parler. Donc probablement la Russie va essayer de prendre cette ville-là et probablement l'Occident peut aussi répondre par quels moyens, ça on le sait pas. C'est dans ces conditions-là qui vont avoir lieu d'ici quelques mois que les menaces nucléaires va être répétée par la Russie encore et encore.
Puisque... Oui.
Et donc, c'est pour ça que, oui, effectivement, si jamais il y a cette menace nucléaire réelle, ça sera très bientôt.
Ça donne beaucoup d'actualité aux propos du président français qui a parlé de l'utilisation de l'arme atomique à l'échelle du continent européen.
Vous me faites une transition parfaite.
Non pas à la partager, comme disent certains, mais vraiment l'éventualité qu'on puisse envisager d'utiliser cette arme en Europe.
Et de partager la dissuasion nucléaire avec...
Partager la décision.
Mais que la dissuasion nucléaire se fasse au niveau européen.
Comme il y a le parapluie américain sur toute l'Europe déjà, avec des armes nucléaires américaines, le bouton rouge est à Washington. À Paris, il est à Paris. À Londres, il est à Londres. Mais effectivement, l'arme stratégique, enfin l'arme atomique française, c'est la dissuasion pour la France. Le concept nouveau qui a déjà été d'ailleurs évoqué par d'autres présidents et par De Gaulle lui-même, mais aussi par Giscard et d'autres, ça a été de dire « Et si un pays ami de l'Europe était menacé de façon réelle, est-ce que l'arme nucléaire française dont la France dispose et seul le président français peut l'utiliser, pourrait être utilisée contre l'agresseur éventuel ?» La question est posée.
La question est posée. La réponse de Marine Le Pen aujourd'hui.
Enfin, c'est pas, on ne peut pas dire on va être plus puissant en partageant notre puissance nucléaire. C'est évidemment un élément total d'affaiblissement de notre pays. Et je suis très inquiète par cette perspective du partage de la force nucléaire, auquel suivra évidemment le partage de notre siège au Conseil de sécurité, car les deux sont liés, quoi qu'on en dise. Bon, donc je trouve ça extrêmement inquiétant et je n'ai pas envie, encore une fois, que les intérêts vitaux de la France nécessitent l'autorisation de 26 pays pour pouvoir potentiellement un jour être mis en œuvre si c'est nécessaire. Voilà, je ne le souhaite pas. Cette force nucléaire, elle n'appartient pas à Emmanuel Macron. Cette force nucléaire, elle appartient aux Français.
Partager la dissuasion nucléaire, c'est l'abolir et donc affaiblir la France, dit Marine Le Pen.
C'est fou, hein. C'est fou. Il n'y aura jamais un vote pour être 27. Sûr. Non, on ne partage pas la décision. On étend notre parapluie. Oui. On propose un contrat d'assurance-vie à nos partenaires européens.
Et puis elle dit c'est le peuple français, alors que non, dans la Constitution, c'est le président de la République qui détermine la politique de défense de la France.
Il faut, comme le disait Ulysse, c'est quelque chose qui a déjà été acté par les prédécesseurs d'Emmanuel Macron. C'est-à-dire que la question, par contre, c'est quels sont les intérêts vitaux? Les intérêts vitaux, ils ne s'arrêtent pas à la frontière du Rhin. Voilà, c'est ça. Mais on va maintenir une ambiguïté stratégique. Mais effectivement, il y a une vraie raison pour laquelle effectivement le président de la République a évoqué cet aspect-là. D'autant plus qu'il faut également se rappeler qu'il y a une élection essentielle au mois de novembre aux États-Unis, et donc avec une incertitude sur si Trump revient à la Maison Blanche, sur son positionnement par rapport à la défense de l'Europe.
Voilà ce qu'on pouvait dire aujourd'hui sur ce discours de Vladimir Poutine en Russie à l'occasion du 9 mai. Merci beaucoup, Denis Strelkov. Merci à vous, général Jérôme Pélistrandi.